les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par l'épidémie du coronavirus. L'Arabie Saoudite a annoncé ce jeudi suspendre temporairement l'entrée des pèlerins se rendant à la Mecque, premier lieu saint de l'islam, pour prévenir l'arrivée du nouveau coronavirus qui s'est propagé dans la région du Golfe Persique. Riyad n'a annoncé aucune infection sur son sol, mais la plupart des pays voisins ont enregistré des dizaines de cas ces derniers jours, en majorité des personnes revenant d'un pèlerinage chiite en Iran où l'épidémie de pneumonie virale a fait 26 morts. Le bilan le plus lourd après celui de la Chine, berceau de la maladie. Dans ce contexte, le gouvernement saoudien a décidé de suspendre temporairement les entrées dans le royaume pour réaliser la Omra, le petit pèlerinage effectué à la Mecque par des millions de musulmans à n'importe quelle période de l'année. À la différence du Hajj, le grand pèlerinage effectué à une date précise, une fois l'an. Toujours concernant l'épidémie de coronavirus, en République démocratique du Congo, un collectif de parents d'étudiants a demandé au gouvernement du président Félix Tshisekedi de rapatrier leurs enfants qui se trouvent en Chine. Objectif, les protéger contre l'épidémie de pneumonie virale, Eddy Isango.
Les parents des 140 étudiants congolais concernés demandent à leur gouvernement d'intervenir auprès des autorités chinoises pour faciliter la couverture médicale en vue du rapatriement de leurs enfants. Selon Jawolo Luleke, porte-parole du collectif, dont le fils de 23 ans étudie en Chine, les parents sont prêts à supporter eux-mêmes les frais des transports. Leur crainte est que leurs enfants sont mis en quarantaine, achètent tout en ligne et risquent bientôt d'être à court d'argent. Aucun cas de contamination n'a été enregistré. Parmi les étudiants congolais, des gouvernements appellent les parents au calme. Des mesures nécessaires sont en train d'être étudiées selon le porte-parole du gouvernement, David Jolino Diouampovesa Makelele. La RDC avait début février appelé ses ressortissants à s'abstenir de se rendre en Chine, un de ses principaux partenaires commerciaux. Des contrôles sanitaires ont été mis en place à l'arrivée des vols internationaux à Kinshasa. Le pays fait face déjà depuis août 2018 à une épidémie d'Ebola dans l'Est qui a fait plus de 2260 morts.
Élection en Guinée, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a exhorté la Guinée ce jeudi à veiller à ce que les élections de la fin de la semaine se déroulent de manière transparente pour éviter des troubles supplémentaires. Le pays qui organise dimanche un référendum constitutionnel et des élections législatives est en proie depuis 4 mois à une contestation anti-pouvoir qui a fait des dizaines de morts. Et une nouvelle journée de mobilisation de l'opposition est prévue aujourd'hui. Les opposants au président Alpha Condé dénoncent le référendum sur la constitution et les législatives organisées simultanément comme une manœuvre du chef de l'État pour briguer un troisième mandat à la fin de l'année, alors que l'actuelle constitution guinéenne en limite le nombre à 2 seulement. Élection en Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, l'un des 2 candidats au second tour de la présidentielle du 29 décembre, compte se faire investir ce jeudi au poste de chef de l'État, malgré l'imbroglio persistant sur l'issue du scrutin. C'est du moins ce qu'il a déclaré hier. Monsieur Embalo, issu de l'opposition, a été donné vainqueur par la commission électorale avec 53,55% des voix. Mais son rival, Domingos Simoes Pereira, continue de contester sa victoire. M. Pereira appartient au PAIGC qui domine la vie politique de la Guinée-Bissau depuis l'indépendance en 1974. Élection au Togo maintenant, l'opposant Akbeyome Kodjo, arrivé en seconde position à la présidentielle, a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Il dénonce de faux résultats et une mascarade électorale concernant ce scrutin remporté par le président sortant Faure Gnassingbé selon les chiffres officiels. Plus de détails avec Abdourahmane Dia.
L'opposant affirme avoir déposé mardi soir un recours devant la Cour constitutionnelle et dit attendre que la Cour récuse les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Cet ancien premier ministre a obtenu 18,37% des voix contre 72,36% pour le président sortant selon les résultats préliminaires. Le candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement s'est autoproclamé président quelques heures avant la proclamation des résultats de la CENI, dénonçant de graves irrégularités. Depuis, il a appelé plusieurs fois les Togolais à se mobiliser pour manifester leur désapprobation face à ce qu'il appelle une mascarade électorale et à défendre leur suffrage. Mais son appel n'a pas eu d'écho et les Togolais ont continué à vaquer à leurs occupations. Les observateurs de la CEDEAO ont exhorté les candidats à respecter les résultats proclamés par les institutions et à recourir, si besoin, aux voies légales.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Relation France-Mali, l'ambassadeur du Mali en France a accusé hier les soldats de la Légion étrangère participant à l'opération anti-djihadiste française Barkhane de débordement qui pose problème à Bamako. Cette affirmation a été aussitôt rejetée par l'état-major français qui assure que les légionnaires n'ont jamais été stationnés dans la capitale malienne, Bagassi-Koura.
Les légionnaires n'ont jamais été stationnés à Bamako, ils n'ont pas vocation à y aller, ils n'ont ni quartier libre, ni temps de repos. Or, des bases opérationnelles de Barkhane, situées dans le nord du Mali, a réagi le porte-parole de l'état-major français, le colonel Frédéric Barbry. Plus tôt hier, l'ambassadeur du Mali en France, Toumani Djimé Diallo, avait dénoncé devant la commission défense du Sénat français les problèmes posés par la Légion sur le sol malien en évoquant des débordements à Bamako. Il n'y a pas de sentiment anti-français au Mali, a dit le diplomate malien. Il y a eu à un moment donné un ressenti au sein de la population contre la présence militaire française, a-t-il déclaré lors d'une audition parlementaire des ambassadeurs des pays du G5 Sahel. D'abord, avec tant d'hommes et de moyens, on s'attendait à plus de résultats, moins coûteux en vie humaine, a-t-il souligné. Le président de la commission du Sénat français, Christian Cambon, lui a rétorqué « Nous prenons note, mais souhaitons réaffirmer notre solidarité envers nos forces armées ».
Au Congo-Brazzaville, certains acteurs de la société civile dénoncent le fait que les pygmées n'aient pas été associés à la mise en œuvre d'un programme de développement de l'ONU qui les concerne directement à Sibiti, dans le sud-ouest du pays. Il s'agit d'un programme d'amélioration de leurs conditions de vie. Reportage de notre correspondant sur place, Arsène Séverin.
Soutenu à plus de 2 millions de dollars, ce programme lancé dans l'allée Koumou, dans le sud du Congo-Brazzaville, vise l'amélioration des conditions des populations autochtones. La représentante de l'UNICEF, Michaela Marques de Souza, brosse le tableau.
Les populations autochtones constituent le groupe le plus marginalisé au Congo. 65% d'enfants autochtones ne sont pas scolarisés, comparé à 39% au niveau national. La malnutrition chronique des enfants autochtones est de 40%. Plus de 50% d'enfants autochtones n'ont pas d'acte de naissance. Cette réalité explique le choix des populations autochtones comme cible de ce programme.
Le représentant adjoint du Programme alimentaire mondial, Ali Ouattara, explique comment surmonter certains défis.
Que la question de scolarisation pose des problèmes. Et les questions d'alimentation scolaire posent problème. Nous avons prévu une des interventions qui consiste à mettre en place des cantines scolaires dans certaines écoles. Lorsque les enfants sont parasités et qu'ils consomment, quelle que soit la qualité de l'alimentation, ça ne pourra pas produire les effets escomptés. Avec l'OMS, il y a des questions liées au déparasitage également qui vont intervenir. Il y a des questions liées à la vaccination, à l'accès aux services et aux actes de santé qui sont très limités, notamment dans les zones les plus reculées.
Mais pendant que leur destin se discute dans cette salle climatisée de Sibiti, aucun autochtone n'est présent. Un groupe de Bantous, donc des autres Congolais, les représente. Étonnement de Jean-Claude Bassouamina, directeur départemental de la promotion de la femme.
C'était plus simple de prendre des délégués, ne fût-ce que des délégués, parce que si nous n'arrivons pas à l'autonomisation de ces populations-là, tout le travail que nous faisons, elles seront toujours derrière les Bantous.
Promotrice d'une ONG qui soutient les élèves autochtones, Angèle Malouona Mbembo appelle à plus d'action envers ses enfants.
Il y a déjà 37 qui sont à notre charge. Il y a deux qui sont admis à Mosenjo, à une formation des eaux et forêts. C'est comme ça qu'on se débrouille. On n'a jamais eu un financement.
La ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire, Antoinette Dinganjodo, demande à toute la communauté d'être solidaire avec les populations autochtones. Les populations autochtones représentent plus de 10% de la population congolaise, estimée à plus de 4 millions d'habitants. De retour de Sibiti dans l'allée Koumou, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Pour terminer, en Tunisie, le Parlement tunisien a voté ce jeudi la confiance à un nouveau gouvernement de coalition formé la semaine dernière par le Premier ministre désigné Elias Fakhfakh, mettant fin ainsi à plusieurs mois d'incertitude politique. Merci de votre attention.